Chers amis des cellules, bonjour. Je vous invite aujourd'hui à méditer le texte de l'évangile de dimanche prochain, le quatrième dimanche de carême, avec cet extrait de l'évangile selon saint Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Avant de lire notre passage, il faut rappeler un épisode de l'Ancien Testament auquel l'évangile fait référence. C'est celui des serpents dans le désert. Au chapitre 21 du livre des Nombres, on a cet épisode où le peuple a manqué de confiance contre le Seigneur, a murmuré contre lui, si bien que le Seigneur suscite des serpents brûlants qui viennent mordre les fils d'Israël dans le désert. Le peuple retourne son cœur, retourne au Seigneur, et demande à être sauvé. Et le Seigneur donne ce signe à Moïse d'élever un serpent fait de bronze sur un pieu, et toutes les personnes qui seront mordues par des serpents, si elles regardent le serpent de bronze qui a été élevé, seront sauvées. Notons bien que dans cet épisode, ce qui provoque le salut, ce n'est pas un serpent magique, mais c'est l'obéissance à la parole que Dieu a donnée, l'obéissance dans la foi à la consigne qu'il a donnée. Lisons maintenant le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Remarquons une chose un peu surprenante sur la fin de notre texte. Nous avons l'habitude dans l'écriture des oppositions, jour, nuit, lumière, ténèbres, les eaux du bas, les eaux d'en haut, le fort, le faible. Or, dans la fin de notre texte, il y a une opposition étonnante. On lit en effet, « Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. » Là, tout va bien, on a cette opposition, lumière, ténèbres, le mal qui déteste la lumière, le mal associé aux ténèbres. Mais voilà qu'en face, on s'attendrait du coup, mais celui qui fait le bien vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Or ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est « mais celui qui fait la vérité vient à la lumière ». À la place de ce qu'on aurait attendu, celui qui fait le bien, on a « celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Essayons de comprendre en quoi cela est très important. Si l'on était resté simplement sur une opposition « ceux qui font le mal, ceux qui font le bien », on aurait juste eu un élément un peu descriptif. Ceux qui font le mal préfèrent rester dans les ténèbres de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Ceux qui font le bien vont à la lumière pour que la bonté de leurs œuvres soit manifestée. En utilisant le terme « celui qui fait la vérité », l'évangéliste nous ouvre une nouvelle dimension, celle de la conversion. En effet, celui qui fait la vérité peut très bien avoir eu des œuvres qui n'étaient pas des œuvres bonnes. Il a pu commettre des œuvres qui étaient mauvaises, objectivement mauvaises. Or, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il vient à la lumière pour que ses œuvres soient plongées dans la lumière, ses œuvres qui ont été bonnes, mais aussi ses œuvres qui ont été mauvaises. Celui qui fait la vérité met toutes les œuvres de sa vie sous la lumière. On découvre alors qu'il y a deux manières d'accomplir des œuvres en union avec Dieu. La première manière, c'est la plus évidente, qui elle vient à notre esprit immédiatement, c'est que j'avais accompli des œuvres bonnes, une œuvre bonne avec la grâce de Dieu, et je viens justement à la lumière pour que soit manifesté que cet acte a été accompli en union avec Dieu. Mais il y a une deuxième manière, et cette manière sera celle de la miséricorde. J'ai commis une action mauvaise, mon œuvre était mauvaise, j'ai commis le mal. Et voilà que j'en prends conscience et que je le regrette et que je viens implorer la miséricorde de Dieu. Alors mon acte n'est plus simplement un acte mauvais, il devient un acte saisi par la miséricorde de Dieu. Et l'action accomplie en union avec Dieu est l'action qui laisse mon histoire être saisie par la miséricorde de Dieu dont je me suis approché en toute vérité. Voilà que mon action mauvaise devient transformée, transfigurée en action miséricordiée par la puissance du Seigneur. Prenons un exemple dans l'histoire de la Révélation. Le reniement de Pierre, par exemple. Le reniement de Pierre, on y voit d'abord une présomption de sa part, même si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. Et puis ensuite l'effondrement, par trois fois il va le renier, jurant même par serment qu'il ne le connaît pas. A priori, cet événement est un événement de ténèbres, une trahison, un reniement objectif. Mais voilà que parce que Pierre s'est approché de Jésus, que parce que Pierre a reçu sa miséricorde, cet épisode du reniement de Pierre devient pour nous un lieu d'espérance. Pierre le renégat est devenu Saint Pierre. Pierre le renégat qui est allé chercher la miséricorde du Christ est devenu Saint Pierre. Et donc cela devient un lieu d'espérance pour que nous nous convertissions. Cet événement qui n'était qu'une tache en fait dans l'histoire, une trahison, un lieu de ténèbres, est transformé par la miséricorde de Dieu et devient un événement d'espérance pour nous. C'est bien cela que veut susciter la contemplation du Christ en croix. Comme autrefois le serpent de bronze au désert, les Israélites levaient les yeux vers le serpent de bronze, c'était un moyen d'assumer réellement leur histoire. Ces serpents sont apparus à cause de nos murmures, de notre doute quant à la bonté de Dieu à notre égard, lucidité sur l'histoire, mais en même temps, le Seigneur nous donne un passage. Celui qui regardera vers le serpent, celui qui prendra à la fois lucidement en compte son histoire et qui croira à la miséricorde de Dieu en mettant sa parole en pratique, regarde ce serpent et tu seras sauvé, eh bien voilà que Dieu a ouvert un chemin de salut. Et de la même façon, la contemplation du Christ nous donne à voir la conséquence réelle du péché. Le péché nous transforme en ceux qui crient à mort, crucifie-le. Le péché fait de nous des bourreaux du Christ. C'est une réalité. Il y a un vrai poids, une vraie conséquence de notre péché dont le fruit est la mort. Et cela nous est donné en voyant le Fils de Dieu mis à mort. Mais voilà que le Seigneur ne s'arrête pas simplement à une lucidité sur notre histoire. Le Seigneur aussi, à partir de cette lucidité, nous offre un chemin de vie. On pourrait même dire, c'est parce qu'il nous offre un chemin de vie qu'il nous permet d'avancer lucidement sur notre histoire. Sinon, on irait se cacher, comme Adam dans le jardin de la Genèse. Sinon, on irait se pendre comme Judas après avoir voulu rendre l'argent de sa trahison. Le Christ élevé en croix nous offre un salut, nous offre un chemin. Il est venu par sa croix, par son amour vécu jusqu'au bout, écraser la réalité de notre péché. Il est venu prendre sur lui le poids de nos actions mauvaises pour nous ouvrir un chemin de sainteté. C'est cela qui nous est donné de découvrir dans la contemplation du crucifié. Ainsi, cet épisode de l'Évangile nous ouvre en ce temps de carême tout particulièrement à la contemplation de Jésus en croix. Contemplation de Jésus en croix avec la confiance qu'il est venu nous apporter le salut, et donc que je peux regarder en face mon histoire. Nous savons combien cela est difficile, et c'est les expressions que l'on peut voir chez les enfants, « c'est pas moi, j'ai rien fait », alors que parfois il a encore même la main dans le sac. Nous avons cette intuition que le fruit du péché est la mort, et du coup, nous espérons qu'en le niant, en empêchant que l'on voit notre responsabilité, ou en voulant échapper à notre responsabilité, on va pouvoir continuer à vivre, alors qu'en fait, on conserverait une blessure mortelle dans notre cœur. Osons contempler Jésus en croix, osons passer du temps devant le crucifix pour comprendre ceci, ce que nous pouvions faire de pire, mettre le Fils de Dieu à mort, nous l'avons fait. Et Dieu pourtant a voulu de cet événement nous offrir un chemin de salut. « J'ai assumé ta mort, nous dit le Christ, pour que tu reçoives de moi la vie par la miséricorde. » En ce carême, ne nous cachons pas comme Adam au jardin de la Genèse, n'allons pas nous pendre comme Judas qui croit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, mais approchons-nous du Christ à travers le sacrement de la miséricorde, à travers la confession, pour recevoir de son sang versé sur la croix le pardon de nos péchés. C'est sur ta parole que nous osons avancer, Seigneur. C'est sur ta parole que nous osons nous présenter devant toi, parce que tu nous y as invités et parce que tu en as la puissance. Comme tu as fait de Pierre le renégat un saint, fais de nous qui osons approcher de toi en faisant la lumière sur notre vie, fais de nous aussi des saints. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être deux éléments en particulier. Le premier, le parallèle étonnant, celui qui fait le mal, opposé non pas à celui qui fait le bien, mais opposé à celui qui fait la vérité, car cela offre une perspective de transformation, de transfiguration de notre histoire par la miséricorde. Le deuxième point, l'invitation à la contemplation de Jésus en croix, pour sortir de la peur issue du péché, cette peur de mourir, cette peur de disparaître si jamais on savait ce que nous avions commis, pour entrer dans une confiance et une espérance que le Seigneur qui sait la gravité de nos actes, que le Seigneur qui en a porté jusque dans sa chair le poids, veut pourtant nous offrir un chemin de sainteté. Je vous souhaite de bons échanges.